la dernière partie de la grande table. Caroline Brouet.
Avec donc, si les auditeurs ont suivi votre journal, Antoine Mercier, Jean-François Bayard. Bonjour Jean-François Bayard, vous êtes professeur au Graduate Institute de Genève, directeur de la chaire d'études africaines comparées de l'université Mohamed VI Polytechnique de Rabat au Maroc. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, puisque sans être géopolitologue, vous êtes quand même un spécialiste de questions internationales. Donc, ouvrages tant sur l'islam républicain que sur le national-libéralisme, et le dernier en date pour lequel vous étiez venu au micro de la grande table, c'était La Cité culturelle, Rendre à Dieu ce qui revient à César, publié cette année aux éditions Cartala. Mais c'est moins pour vos ouvrages, cette fois que vous êtes notre invité aujourd'hui, que pour vos récentes prises de position dans les médias. Je pense à une tribune dans le journal Libération français le 15 novembre dernier, tribune intitulée Le retour du boomerang, ou à une autre prise de position dans le journal Le Temps, récente également.
Ce matin.
Voilà, tout à fait, très récente. Donc c'est moins pour ces ouvrages que pour ces prises de position que nous vous avons invité, parce que, par exemple, si je prends le retour du boomerang, c'est un article dans lequel vous pointez nos erreurs françaises, tant dans notre politique intérieure que dans notre politique extérieure, ces 40 dernières années. Vous affirmez que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. C'est une phrase que j'ai relevée de votre article. Allez-vous jusque-là, Jean-François Bayard ?
Tout d'abord, il y a une continuité entre les prises de position que je prends dans des médias, d'une part, et d'autre part, mes travaux universitaires. Je ne me reconnais pas du tout dans la définition canonique de l'intellectuel engagé, mais plutôt dans la définition de l'intellectuel spécifique en faveur de laquelle plaidait Foucault. C'est-à-dire que j'interviens dans le débat public à partir de mes
champs. Au nom de ce que vous connaissez.
De compétences, Inch'Allah. Bon. Il ne s'agit naturellement pas d'avoir une lecture intentionnaliste des faits. On pourrait prendre une comparaison de l'ordre de l'automobile. Si vous avez un accident, vous êtes responsable de cet accident, parce que vous avez conduit trop vite, parce que vous avez eu un moment d'inattention, éventuellement parce que vous avez bu, mais vous n'avez pas forcément l'intention de rentrer dans une voiture ou d'écraser un piéton. Donc c'est dans ce sens que je parle de responsabilité. Il ne s'agit naturellement pas d'imputer aux Français ou au gouvernement français les tueries du mois de novembre ou du mois de janvier. On sait très bien qui sont les tueurs, ils sont parfaitement identifiés, et on sait donc qui sont les coupables. Néanmoins, il me semble important que les politiques français, que les citoyens examinent de façon raisonnée quelle a été leur politique et quelle est éventuellement la responsabilité d'un certain nombre de choix qui ont été effectués depuis une quarantaine d'années et qui, pour certains, pouvaient être parfaitement honorables. Le rôle du chercheur, c'est un peu le rôle du radiologue. Il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur ou quoi que ce soit, il s'agit d'avoir l'imagerie la plus précise de la situation dans laquelle nous sommes. Or, nous avons fait des erreurs. Ces erreurs peuvent être à l'origine de la situation embarrassante dans laquelle nous nous trouvons. Elles peuvent être également à l'origine de la très grande difficulté que nous avons à répondre à cette situation. J'insiste sur le fait que je n'ai pas voulu politiser le problème. Je crois que ce sont des erreurs bipartisanes et que aussi bien les gouvernements de droite que les gouvernements de gauche ont assumer ses choix dans une certaine continuité de l'État et que maintenant nous en payons le prix.
Alors j'anticipe la question d'Antoine. Quelles erreurs, par exemple, Jean-François Bayard?
Alors, la première erreur, c'est que effectivement, nous avons conduit dans un état second. Nous nous sommes drogués à la relation avec les pétro-monarchies pour, à partir des années 1970, dans un contexte économique que nous avons peut-être un petit peu oublié, les chocs pétroliers, les déficits structurels de la balance commerciale française et cette propension du capitalisme français à raisonner, et des gouvernements français à raisonner en termes de grand marché, là où un pays comme l'Allemagne fait reposer son effort d'exportation sur un tissu plus dense de PME. Donc nous étions à l'affût de ces grands contrats et bien entendu dans le contexte pétrolier des années 1970 il y avait des clients tout désignés, la Libye déjà, du colonel Kadhafi, l'Arabie Saoudite et puis l'Irak et puis bientôt les pétro-monarchies qui pour certaines d'entre elles recouvrent leur souveraineté au début des années 1970. Et nous avons donc développé un partenariat stratégique assez rapidement en signant des accords de défense dont certaines clauses, dont l'application de certaines clauses était différée dans le temps, notamment l'ouverture de facilités ou de bases militaires. Et tout cela, personne n'en a véritablement jamais véritablement entendu parler dans les années 1970-1980. Ces clauses sont dû être appliquées à la fin des années 90 ou dans les années 2000, dans un contexte régional d'ailleurs qui avait beaucoup évolué, en particulier du fait de la question nucléaire iranienne. Là, il y a un premier élément très important. Et un premier élément très important qui nous a entraîné dans une seconde erreur en 1980, lorsque nous avons cautionné et appuyé non seulement diplomatiquement mais également militairement ce qu'il faut bien qualifier en droit de guerre d'agression de l'Irak contre l'Iran. Là, nous nous sommes aliénés un acteur important de la région, l'Iran, qui nous en a immédiatement fait payer le prix, en particulier sous forme d'attentats, sous forme de prise d'otages au Liban. C'était un petit peu, si vous voulez, l'arme du faible.
Autre erreur, Jean-François Bayard, que vous soulevez, notre politique envers la Turquie.
Bien sûr. Certains auditeurs de France Culture s'en souviennent-ils. Moi, depuis très longtemps, j'insiste sur la nécessité de raisonner non pas simplement en coût d'une éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union Européenne, mais également en coût de sa non-adhésion. Et surtout d'une non-adhésion imposée, c'est-à-dire d'une éviction. Bon. C'est exactement ce que l'Europe, et singulièrement la France, à l'initiative du président Sarkozy, a fait à partir de 2007, où on a fermé, même plutôt claqué, la porte au nez de la Turquie, alors même que celle-ci avait, avant même l'arrivée au pouvoir d'Erdogan, en particulier avec Kemal Derviş, avait engagé toute une série de réformes, à la fois en matière de droits de l'homme et en matière de d'ajustement structurel de l'économie, qui montrait une volonté de la Turquie d'essayer d'adhérer à l'Union européenne. Et cet effort était d'ailleurs porté par l'opinion turque. Et la victoire de l'AKP en 2002 était également un vote pro-européen, parce qu'à l'époque, l'AKP s'était clairement rallié à la cause européenne. En 2007, lorsque nous avons claqué la porte au nez de la Turquie, d'une part, nous nous sommes privés de toute influence auprès d'elle, hein, tant en matière de droits de l'homme qu'en matière de politique étrangère. Et d'autre part, nous avons créé une situation où la Turquie a été tentée de développer une stratégie de free rider, de chevalier seul, et a roulé pour elle-même. Ce que d'ailleurs, d'une certaine manière, elle a toujours fait. La Turquie a toujours eu une politique, au fond, assez gaullienne, hein, d'indépendance nationale, quels que fussent les gouvernements depuis les années 50-60. Et là, nous avons un véritable problème, parce que nous avons une Turquie qui s'est distanciée par rapport à l'Europe et par rapport à ses intérêts, et qui poursuit des objectifs d'une manière, il faut le reconnaître, assez aventureuse.
Dans ce débat, Jean-François Bayard, sur la responsabilité française ou la responsabilité également européenne dans cette violence des terroristes aujourd'hui, il est aussi beaucoup question de l'intervention en Syrie, de l'intervention, parce que vous n'êtes pas le seul à dire ce que vous dites aujourd'hui, de l'intervention en Syrie russe et de l'intervention en Syrie derrière française. Par rapport à cela, que dites-vous ?
Je pense que l'expérience prouve que toute intervention militaire des Occidentaux, fût-elle bien intentionnée, s'est soldée depuis une quarantaine d'années dans la région par une catastrophe. La manière dont les Américains se sont appuyés sur des partis islamistes, sur l'Arabie Saoudite, sur le Pakistan pour aider l'Afghanistan à résister à l'occupation militaire a produit l'effet Ben Laden et l'effet Al-Qaïda. L'intervention américaine en 2003 a produit Daesh très directement, puisqu'on sait que Daesh a été très largement créé par ce qui restait de l'establishment militaire de Saddam Hussein, et qu'à bien des égards le djihad est un faux-né du Basse. L'intervention en Libye en 2011 a été catastrophique, et nous n'avons peut-être pas commencé à en payer le prix. pris. Et de ce fait, je crains qu'une intervention militaire en Syrie ne consolide ceux que l'on cherche à affaiblir, d'autant plus que maintenant nous faisons cause commune avec les Russes, qui ont une manière assez particulière de bombarder. Donc le nombre des victimes collatérales ira grandissant. C'est la pire image que nous pouvons envoyer à ceux que nous combattons et surtout à leur base sociale potentielle, l'image des croisés. C'est-à-dire que la France supposée catholique s'allie à la Russie orthodoxe et là, ce sera immédiatement interprété en termes religieux et décrypté en termes religieux par des entrepreneurs politiques de religieux que sont par exemple Daesh.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Alors ceci étant dit, Jean-François Bayard, pour dialoguer avec vous et parce que ce que vous dites suscite un certain nombre de réactions, le fait même que cette violence des attentats du 13 novembre ait sans doute été une violence pour vous en tout cas réactive, eh bien ces propos-là suscitant un certain nombre de réactions, nous avons proposé à Frédéric Ancel, qui est un spécialiste de géopolitique, de nous rejoindre autour de la table pour dialoguer avec vous. Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Votre dernier ouvrage, c'est Petites leçons de diplomatie, et j'espère que vous allez faire preuve de diplomatie dans votre réaction.
Vous me connaissez tout de même. Par ailleurs, humainement, j'aime beaucoup Jean-François Bayard, on se connaît depuis longtemps. Et d'ailleurs, nous avions jouté à maintes reprises sur France Culture, dans l'émission de Madeleine Moukabamano.
Tout à fait, voilà. Oui. Donc, bon souvenir.
Absolument. Et donc, autant j'aime beaucoup Jean-François Bayard, que je tutoie dans la vie, par conséquent, je vais me permettre de le tutoyer ici, autant je combats avec force et vigueur ce qu'il dit, et notamment dans Libération. Alors, je constate avec beaucoup de plaisir que Jean-François a mis de l'eau dans son vin à ce micro, en disant qu'on sait qui sont les tueurs, on les a bien identifiés.
Je le dis à la fin du papier.
Hein. Non. Tu dis les crétins assassins.
Oui.
Oui, mais je constate surtout que mal nommer les choses, comme disait Camus, c'est ajouté au malheur du monde. Le désordre que nous vivons, fruit vénéneux, mur, cocotte minute, boomerang, gouffre. Moi, si je suis un martien francophone, bien évidemment, que je descends sur Terre et que je découvre ce papier de Libération, je me dis que la foudre est tombée sur Paris ce jour-là. Tu ne nommes jamais. Jamais les gens qui ont perpétré ces actes de terrorisme. On peut les appeler différemment. Je pense que là, à peu près tout le monde est d'accord pour qualifier ces actes de terrorisme, parce qu'en face, il n'y avait que des civils. Le djihad, ça n'existe pas. L'islamisme radical, s'ils s'affirment porteurs, n'existe pas. Toutes leurs références, d'ailleurs, leurs revendications, tout à fait officielles. C'est-à-dire Paris comme étant le centre, je reprends le communiqué de Daesh, le centre de l'abjection et de l'abomination, c'est-à-dire le takfir, la zina, tout ça n'existe pas. Et c'est la première chose qui m'a fait bondir, parce que je pense que, d'abord moralement, ça pose un problème, si je peux me permettre, et vis-à-vis notamment des victimes, et d'autre part, sur le plan politique, il est très compliqué de pouvoir stigmatiser d'où vient le problème. Et là, on peut commencer à discuter de fond si on ne nomme pas les gens qui ont perpétré ça. Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec toi, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Oui, ce sont des États, enfin ces régimes politiques, wahhabites, fanatiques, en réalité, il faut bien employer le terme, sont la matrice à la fois idéologique et financière, non seulement d'un certain nombre d'islamistes, de groupes islamistes radicaux, mais même de Daesh. Je suis d'accord. Alors, il fallait pas travailler avec eux en matière de vente d'armements lourds à l'exportation. Je ne sache pas qu'on dise la même chose de la Chine, dont la politique est parfaitement contestable sur le plan des droits de l'homme, c'est le moins qu'on puisse dire, au Xinjiang, au Tibet, et avec sa propre population interne, celle des Han. Alors, moi, je veux bien qu'on ne vende des rafales qu'aux Pays-Bas, au Danemark et au Luxembourg, mais il n'y a pas qu'eux qui nous en achètent. Mais sur le fond, je ne serais pas en désaccord avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, et je pense d'ailleurs qu'il faut modifier notre politique vis-à-vis de ces régimes-là.
On peut s'arrêter sur la nomination, peut-être, d'abord.
Oui, sur la façon de nommer ou de ne pas nommer, en l'occurrence, en tout cas, dans le papier de Libération.
Pour commencer. Jean-François Bayard.
Bon, je pense que nous sommes autour de cette table tous suffisamment avertis du journalisme pour savoir que 7000 signes, c'est assez court, et que le rôle d'un chercheur, c'est d'amener à réfléchir, si possible, et qu'il était assez redondant de rappeler ce que tout le monde savait, qui effectivement étaient les tueurs. Je crois qu'il était assez redondant de verser des larmes supplémentaires. Le chercheur peut avoir des émotions comme tout le monde.
Si j'ai pas de de ça.
Mais les émotions du chercheur ne sont pas particulièrement utiles et n'intéressent pas forcément les lecteurs ou les auditeurs. Bon. Donc il me paraissait plus utile, dans les 7000 signes qui m'étaient impartis, de déplacer les lignes du débat et de souligner un certain nombre d'effets complexes, parce que quand par exemple il ne s'agit pas de réduire le rôle ou le caractère toxique de l'Arabie Saoudite et des pétromonarchies aux simples ventes d'armes. D'ailleurs, ce ne sont pas ces armes qui ont été retournées contre nous. Donc le problème n'est pas là. Ce que je dis, c'est que l'alliance, le partenariat stratégique que nous avons développé en grande partie pour des raisons mercantiles à partir des années 1970, a favorisé la propagation d'un islam fondamentaliste. Moi, j'éviterai les termes de fanatique, etc., parce que ce sont des termes normatifs. Mais en tout cas, une forme d'islam salafiste, qui n'est pas forcément d'ailleurs djihadiste, mais qui évidemment n'a pas grand-chose à voir avec nos valeurs, avec notre modèle de développement et avec nos intérêts stratégiques. Et par exemple, je cite dans le papier ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que au moment même, autre erreur, où nous avons contribué au démantèlement de l'État sécularisé hérité de l'indépendance par le biais des programmes d'ajustement structurel, un démantèlement de l'école publique, démantèlement de la santé publique, affaiblissement des capacités administratives des États, à ce moment, dans le cadre de ce partenariat stratégique avec les pétromonarchies, celles-ci ont financé des ONG islamiques qui ont rempli le vide, en quelque sorte. Et on a parlé de réislamisation de l'Afrique de l'Ouest. Ces sociétés, le terme est impropre, ces sociétés n'ont jamais cessé d'être islamiques. Par contre, à un moment donné, de notre fait, elles ont cessé d'être pourvues d'un État sécularisé et de ses fonctions sanitaires et éducatives. Et le résultat, ou l'un des résultats, en tout cas c'est l'une des origines de ce qui s'est passé au Mali en 2011. D'ailleurs, une petite note en bas de page, il y a une intervention militaire que j'ai soutenue et que je continue à soutenir, c'est l'intervention militaire française au Mali en 2011, parce que là je crois que nous n'avions pas le choix, et je pense qu'elle a été relativement bien conduite, ce qui ne veut naturellement pas dire que cette intervention militaire a résolu le problème. Mais là, on a au moins sauvé l'essentiel et sans risque, enfin sans effet secondaire majeur à mon avis.
Oui, une petite question juste peut-être par rapport à votre raisonnement, la manière dont vous abordez la question, puisque vous nous parlez des erreurs que les Occidentaux auraient commises, comme si elles pouvaient expliquer ce qui se produit de l'autre côté, si je puis dire, par rapport aux partenaires ou par rapport à l'extérieur. Comme si c'était nous qui constituions cette politique, la politique qu'ils conduisent, et comme s'ils n'avaient pas en eux-mêmes une existence qui leur permette aussi de développer une politique aussi avec ses erreurs, et que donc ce qui est quand même premier dans ce débat, c'est de savoir à qui on a affaire plutôt que quelles erreurs nous avons commises.
Ne faites-vous pas preuve d'ethnocentrisme européen, d'une certaine façon, Jean-François Bayard.
Je plaide en faveur d'un débat politique raisonné. Il est clair que dans ces sociétés, il était des forces des sociales, politiques, éventuellement religieuses. Il est des choix sur lesquels, qui ont leur propre logique et sur lesquels nous ne pouvons pas véritablement peser. Bon, donc en revanche, nos erreurs, les erreurs de politique que nous avons commises, nous pouvons les corriger. Il ne s'agit pas de se mortifier, il ne s'agit pas de s'autoflageller en disant, il ne s'agit même pas de s'attribuer une culpabilité que naturellement nous n'avons pas. Mais je pense que du point de vue de l'exercice sain de la démocratie, il est normal que nous nous interrogions sur les erreurs que nous avons commises et que nous essayons d'y répondre et de les corriger.
Ça veut c'est pas le dire sens de mon papier. Va jusqu'à dire nous sommes responsables de ce qui nous arrive.
Ça, c'est une lecture qui a été faite de mon papier qui montre qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de parler calmement, peut-être parce que nous sommes dominés par l'émotion, mais le rôle, encore une fois, du chercheur est de passionner les débats, essayer de les poser en termes rationnels. Donc moi, je suis assez impressionné de voir comment un pays supposé aussi cartésien que le nôtre a toutes les peines du monde à réfléchir face à une situation qui, beaucoup plus que des armes et de la répression, demande de l'intelligence. Bon, et nous avons quand même un Premier ministre qui nous enjoint de ne pas réfléchir. C'est exactement ce même genre d'enchaînement qui ont progressivement piégé la France, et singulièrement la gauche, dans les années 1950, où nous sommes payés de mots en traitant le FLM de terroristes. Et effectivement, ils commettaient des actes de caractère terroriste et en niant un certain nombre de réalités. Moi, je pense qu'il était extrêmement important, vous avez raison, Antoine, d'identifier l'ennemi. Et déjà, par l'analyse, nous voyons que l'ennemi est beaucoup moins ce que l'on appelle l'islam qu'une entreprise politique, celle de la reconstitution d'un appareil de pouvoir sunnite dans la continuité de ce qui s'est passé en Irak depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et là, il y a toute une perspective historique qu'il faut réintroduire dans le débat, ce qui ouvre d'ailleurs d'autres interrogations. Par exemple, quelle est l'articulation exacte entre l'appareil bassiste irakiens et les islamistes. Ça n'est pas tellement le mariage de la carpe et du lapin, parce qu'on sait bien que Saddam Hussein, comme d'ailleurs toutes les dictatures de la région, se sont appuyées sur l'islam, notamment dans le cas de Saddam Hussein à partir de 1990. Et puis surtout, cette alliance permet de reproduire la définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté qui caractérise toute la région. Je vais titiller mon ami Frédéric Ancel.
Vous n'avez pas besoin, il est déjà suffisamment titillé comme ça.
Y compris Israël. Et voilà un véritable problème, la définition ethno-citoyenne ethno-confessionnelle de la citoyenneté. Et Daesh, de ce point de vue, s'inscrit dans la pure continuité du régime de Saddam Hussein, du régime mandataire des Britanniques, et dans la pure continuité de la définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté que la plupart des pays de la région, Balkans compris, ont mis en œuvre depuis la chute des empires. Voilà un vrai sujet de réflexion politique. Après, il reste une interrogation. Par exemple, Pierre-Jean Luisard, qui lui est un véritable spécialiste de la région, contrairement à moi, considère que Daesh remet en cause les frontières les frontières mandataires, comme il le dit, héritées des mandats de la Société des Nations des années 20-30. Personnellement, je pense que le ferment national reste au cœur de Daesh et que Daesh sera rapidement confronté à cette contradiction entre le Baas irakien et le Baas syrien qu'il habite.
Vous ne croyez pas au califat ?
Je pense jusqu'à preuve du contraire, l'État-nation ne s'est pas montré soluble dans l'Oumma. Quand on regarde le Hezbollah libanais, quand on regarde le Hamas palestinien, quand on regarde les différents partis islamiques parlementaires de l'AKP turc à Ennahda en Tunisie ou même les salafistes au Maroc, ils restent attachés au cadre national. Et là, je crois qu'il y a une résilience de l'État-nation qui n'est pas soluble dans l'Oumma.
Frédéric Ancel.
Oui, plusieurs choses. D'abord, je n'ai jamais appelé au lacrymal. Hein. Simplement, djihad, c'est 5 caractères hein, sur 7000. Et si c'est les gens qui ont frappé à Paris, je le dis sans aucune émotion, ne sont pas des fanatiques, je pense qu'il faut enlever le terme de fanatisme du dictionnaire. Enfin, sinon, les mots n'ont plus aucun sens. Je pense par ailleurs que le Premier ministre, je ne suis pas là pour le défendre, nous appelle au contraire à une forme d'intelligence qui est celle de savoir face à qui on se trouve et quelles sont, encore une fois, les représentations de mon maître en géopolitique, Yves Lacoste, homme de gauche et géographe. Parce que eux l'expriment, ces représentations. Alors on peut toujours après extrapoler et considérer qu'il y a d'autres raisons qui font que nous avons été et que nous serons frappés, mais enfin à tout le moins il me semble quand même que il faut les écouter. Tu ne me titilles absolument pas en disant qu'en Israël il y a une ethno-confessionnalisation croissante. Je te renverrai sans te titiller davantage à la Turquie. Lorsqu'on est kurde, on est citoyen de seconde zone et ça a toujours
tout
été
fait,
le cas. C'est un véritable problème parce que pour le coup on a un petit peu la sensation que la Turquie, et c'est pas la sensation, en te lisant dans Libération encore une fois, l'Iran et la Turquie seraient les deux grands pôles de stabilité dans la région. Oui, bah moi, je considère que depuis un certain nombre d'années, pas forcément depuis 2002, effectivement, l'AKP n'a pas toujours joué la politique du pire. Depuis un certain nombre d'années, il faut bien constater, en tout cas c'est ce que je fais personnellement, que la Turquie est un pôle, au contraire, d'instabilité, et je ne parle même pas des caractéristiques morales qui me font aujourd'hui soutenir la cause kurde, une cause kurde qu'on a oubliée un peu trop souvent en Irak, lorsque Saddam Hussein gazait les Kurdes à Al-Abja en 88. Alors Bush est intervenu de manière catastrophique, oui bien sûr, en 2003. Je m'étais moi-même inscrit sur cette antenne chez Alain Finkielkraut. Je m'étais inscrit en faux par rapport à la guerre anglo-américaine qui arrivait. C'était l'hiver 2002-2003. Mais je constate que depuis, les Kurdes sont libres. Et je ne vois pas très bien pourquoi on accorderait une importance si fondamentale à la nécessité d'un État pour les Palestiniens en faveur duquel je suis, État palestinien souverain aux côtés d'Israël, qui sont 5 à 6 millions, et pas pour les 30 à 35 millions de Kurdes. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a toujours paru absolument hallucinant. Et puis alors, une vraie contradiction de fond. Tu dis, la France joue la carte de l'autoritarisme pendant des années avec les pays arabes, et je suis totalement d'accord avec ça. On a soutenu les dictateurs, soi-disant laïcs d'ailleurs, nationalistes, les plus lamentables. Eux-mêmes, que ces mêmes dictateurs, que toute une jeunesse très courageuse, fait dégager, selon le terme approprié, de fin 2010 à début 2011. Et puis, deux phrases plus tard, tu dis, après avoir conforté ces dictatures, la France s'est lancée avec puérilité dans l'aventure démocratique. Alors là, j'ai sans doute mal compris ton papier dans Libération. De deux choses l'une. Soit on a mal fait de soutenir des dictatures pendant des décennies, je suis assez d'accord avec cela, même si la réelle politique domine malheureusement quand même le monde, et tu sais très bien que les rapports de force priment le droit malheureusement. Soit il ne fallait pas le faire, et à ce moment-là, il ne faut pas non plus soutenir ce que tu appelles à juste titre l'aventure démocratique, c'est-à-dire le printemps arabe. Donc finalement, il faut jamais intervenir, nulle part. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Puis tout dernier point, c'est une contradiction que je relève aussi. Il ne fallait pas vendre des armes à l'Irak, et tu as tout à fait raison. En 80, c'est l'Irak qui attaque l'Iran. Et ce n'est pas le contraire, et il faut le dire et le rappeler. Et malheureusement, nous avons tous, les Russes compris d'ailleurs, soutenu l'Irak de Saddam Hussein. Mais il ne fallait pas non plus destituer l'Irak de Saddam Hussein en 2003. Alors, il ne faut pas lui vendre des armes, il ne faut pas lui parler, mais il ne faut pas non plus le destituer. Et tu dis la même chose avec Kadhafi. Alors, Kadhafi, oui, qui joue un rôle absolument catastrophique, très irresponsable, du point de vue à la fois de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Il a tenté de déstabiliser, pas seulement d'ailleurs par le terrorisme contre nos avions occidentaux, mais en Afrique, une bonne partie des États alentours. Et puis quand on le fait chuter, tu n'es toujours pas d'accord. Alors il y a quelque chose, mais là en fait c'est une vraie question que je te pose parce que j'ai peut-être mal lu ou mal compris tes propos, mais je vois deux contradictions fondamentales.
On en a pour 10 émissions, Jean-François Bayard.
J'aimerais bien une quinzaine, si c'est possible, si Jean-François accepte.
À lundi alors. Sur la Turquie, ce qui est très intéressant en Turquie, c'est que l'on voit prévaloir une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté qui en effet fait des Kurdes et de beaucoup d'autres des citoyens turcs de seconde zone, grosso modo jusque dans les années 90, 2000, suivant les acteurs en présence. Bon, et d'ailleurs, à l'époque, le PKK promouvait lui-même une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté kurde, en l'occurrence. Bon. À partir des années 1990, et surtout à partir des années 2000, et sans doute est-ce un faux paradoxe, beaucoup à l'initiative de l'AKP, mais également d'intellectuels authentiques démocrates, s'ouvre un débat en Turquie entre deux définitions de la citoyenneté. La définition classique ethno-confessionnelle, kémaliste, donc une république turque, et d'autres qui plaident en faveur d'une citoyenneté d'une république de Turquie. Je vous épargne les deux termes turcs qui désignent ces deux réalités. Et ce qui est intéressant chez Erdogan, c'est qu'on le voit passer de l'une à l'autre de ces définitions. Il y a des moments où il récuse très explicitement l'idée même de nationalisme, l'idée d'ethnie, l'idée d'une république turque, et où il reconnaît le fait culturel mais également politique, kurde, etc. Et puis à d'autres moments où il se crispe, il retombe dans les vieilles ornières de la définition ultranationaliste de l'identité turque, et non pas de Turquie. Et cette hésitation, on la voit d'ailleurs également dans son attitude vis-à-vis du génocide des Arméniens. Jamais aucun homme politique turc n'est allé aussi loin dans le dialogue, et évidemment on peut se plaindre de la moitié vide du verre, mais jamais il n'est allé aussi loin dans la reconnaissance, pas encore du génocide, mais de ce qui s'est passé. Et d'un autre côté, il est incapable de franchir le Rubicon et d'établir des relations normales, ou même de prononcer le gros mot qui fâche. Donc ce qui est très intéressant en Turquie, c'est ce débat qui, à vrai dire, n'est pas propre à la région, parce qu'aujourd'hui en Europe, nous sommes confrontés à la même discussion. Est-ce que nous allons avoir une Europe qui se définit de manière, enfin qui a une définition universaliste de la citoyenneté, qui est la définition classique qui est supposée prévaloir en France, et la vigueur des réactions à propos de la déchéance de la nationalité a naturellement trait à cette conception de la citoyenneté. Ou alors, est-ce que nous allons avoir une Europe celle de Monsieur Orban, par exemple, ou celle du demi-jumeau polonais, ou celle de Marine Le Pen. Donc ça n'est pas un débat entre l'Orient arriéré et l'Occident éclairé. Moi, je suis d'ailleurs tout à fait... j'ai toujours été très amusé de voir que Monsieur Sarkozy a exactement la même expression que les ultranationalistes turcs, qui eux sont très attachés naturellement à une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté turque. Hein. Monsieur Sarkozy s'écrit à l'Assemblée nationale, s'adressant à un immigré imaginaire, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est exactement le cri furieux que profèrent les militants nationalistes turcs quand ils enterrent l'un des leurs. Donc c'est un débat véritablement qui partage aussi bien l'Europe que le Moyen-Orient. Ai-je encore une minute?
Bien sûr, sur le deuxième point. Tout le monde vous attend sur le deuxième point.
Je sur mes contradictions.
Je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Et en tout cas, il n'y a pas de contradiction du point de vue de ma discipline, qui est la sociologie historique et comparée du politique. Et il n'y a pas non plus de contradiction politique. Nous avons appuyé pendant très longtemps des dictatures qui se piquaient de laïcisme et qui, en réalité, contribuaient à l'islamisation de leur société, parce que l'islam a toujours été une politique publique de ces régimes autoritaires. Cela est vrai de l'armée turque dans les années 1980. C'est l'armée turque qui introduit l'enseignement religieux au lycée dans les années 1980. L'armée turque a eu un rôle majeur en 1972 et même auparavant, en 1969, dans la création d'un parti islamique parlementaire. En Algérie, on sait très bien que le FLN a joué la carte de la définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté, de l'islam et de l'arabité. Et en réalité, l'Algérie d'aujourd'hui poursuit la même politique, etc., etc. Bon, donc ces régimes prétendument laïques n'avaient strictement rien de laïque du point de vue français et ont beaucoup contribué à l'islamisation de leur société dans un but très simple qui nous arrangeait, c'est qu'il s'agissait de détruire la gauche. Et il s'agissait également d'empêcher une société civile de se structurer. Dans ces conditions, la revendication démocratique que je salue et que naturellement il fallait soutenir, mais encore eût-il fallu la soutenir bien auparavant, par exemple dans la Tunisie de Ben Ali, dans ces conditions, la revendication démocratique s'est effectuée dans un contexte extrêmement difficile. Et là où nous avons péché de naïveté, c'est de penser que d'un coup de pichenette, en faisant sauter Kadhafi, une société civile heureuse s'épanouirait sur les bords de la Méditerranée. Nous avons complètement sous-estimé la capacité cynique d'Assad de résister. Assad s'est dit, là où les militaires algériens ont réussi au prix de 200 000 morts, pourquoi je ne réussirais pas au prix de 400 000 ? Et est-ce qu'il n'est pas d'ailleurs en train de gagner son pari ? Donc je pense que nous avons été extraordinairement naïfs. Hein. Et la politique, c'est l'art du possible. Et je crois qu'en l'occurrence, nous avons été très naïfs et nous n'avons pas fait les bons choix. Je ne dis pas naturellement qu'il ne fallait pas appuyer la partie démocratique. Je trouve que nous sommes assez bien débrouillés après le départ de Nicolas Sarkozy au sujet de la Tunisie. Je trouve que la diplomatie française a été assez équilibrée et a assez bien su négocier la chose. Je pense que vis-à-vis du Maroc, nous avons une assez saine prudence et que naturellement le Maroc n'est pas un régime démocratique, mais ça n'est pas non plus une dictature et que bon, les choses sur, en tout cas l'historicité du Maroc est complètement différente, on ne peut pas comparer. Mais par rapport à l'Égypte, il y a naturellement une inconséquence extraordinaire et l'appui que nous apportons à la restauration autoritaire de Sisi me semble être à assez courte vue, même si bien entendu nous sommes très heureux de lui vendre un peu de quincaillerie militaire.
Bon, on peut continuer ce tour du monde et d'ailleurs c'est l'un des aspects de ce débat que vous aviez aujourd'hui, Frédéric Ancel et Jean-François Bayard, l'analyse des erreurs ou de la politique en matière extérieure qu'a menée la France depuis ces 40 dernières années. Il y a l'autre aspect de la question qui est la question peut-être aussi de fond, quant à savoir ce pourquoi nous avons été attaqués. Si on suit Jean-Pierre Filliou, il dit ils ne se définissent pas pour ce que nous faisons mais pour ce que nous sommes, et il est difficile de répondre à la question des attaques comme ça pendant une demi-heure. Ce pourquoi je vous pose moi une question à tous les deux, est-ce que vous êtes disponible vendredi prochain pour la suite de cette discussion? Vous pouvez pas me répondre comme ça parce que vous n'avez pas vos agendas sous les yeux, mais la question est ouverte. Merci beaucoup d'être venu dans cette première partie, disons, de ce débat entre vous deux. Jean-François Bayard est à Rabat, il enseigne à Rabat, il sera à Rabat vendredi prochain, nous ne pourrons pas, mais
C'est dommage parce que moi je suis à Paris personnellement.
Vous serez réinvités tous les deux pour continuer cette discussion fort intéressante. On termine avec cette musique de Gilles Andrieux. Vous nous aviez donné à peu près 6 musiques à choisir. Jean-François Bayard, nous avons sélectionné celle-ci, qui est une musique classique ottomane, qui fait le lien avec vos travaux.
C'est une musique classique ottomane. Le luth que nous entendons, c'est un tambour. Et j'ai choisi cette musique, d'une part, et sans aucune nostalgie naturellement, elle nous évoque ce monde impérial qui s'est effondré en 1918, l'Empire ottoman, mais également l'Empire des Habsbourg, et auquel nous avons substitué un monde d'État-nation reposant sur ces définitions ethno-confessionnelles de la citoyenneté. J'ai également choisi cet interprète parce que il s'agit d'un musicien français qui pratique la musique ottomane et la musique turque depuis maintenant plusieurs décennies. Je le crains pour lui et pour moi aussi. Et cela montre bien que la coupure entre l'Orient et l'Occident sur laquelle à laquelle nous nous agrippons idéologiquement dans les termes identitaires est une coupure qui peut être transcendée. L'Orient aussi bien que l'Occident appartiennent à l'universalité, y compris à l'universalité musicale.
Merci beaucoup Jean-François Bayard. Je renvoie naturellement les auditeurs à votre article qui sera mis sur le site de La Grande Table, sur le site de France Culture, franceculture.fr, et aux ouvrages que vous avez publiés, puisque vous nous expliquez qu'il y a bien sûr un lien entre ce que vous écrivez aujourd'hui dans les médias et les ouvrages que vous avez publiés depuis un certain nombre d'années. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'être venu à La Grande Table. Un grand merci à toute l'équipe. À la réalisation, c'était Philippe Baudouin, à la technique Dophar Guéride. Il est 13h31 sur France Culture. On retrouve donc tout de suite Delphine Saltel, Les Pieds sur Terre. Bon week-end à tous.